Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour, bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Une actualité foisonnante en ce mois de septembre où le festival Piano Jacobin continue d'occuper quasi quotidiennement le devant de la scène. Mais d'autres événements très importants se préparent et ne vont pas tarder à prendre le relais, alors que l'Orchestre National du Capitole a fait sa rentrée et a lancé sa saison. Bref, on s'active un peu partout et nous allons avoir du pain sur la planche pour vous rendre compte de tout ce qui se passe à Toulouse et autour. Pour m'assister dans cette tâche, j'ai la chance de pouvoir compter sur le soutien fidèle et précieux de l'ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Et puisque j'évoquais les événements qui se préparent en ce moment, il y en a un qui va avoir lieu du 24 au 26 septembre, à une date assez inhabituelle pour lui, le festival Passe ton bac d'abord. Traditionnellement, il se déroule le premier week-end de juin, mais la crise sanitaire étant passée par là, sa 13e édition a été reportée de la fin du printemps au début de l'automne. Nous allons vous expliquer les raisons de ce choix et vous présenter sa programmation avec un autre habitué des studios de Radio Présence, Michel Brun, fondateur et directeur artistique de Passe ton bac d'abord et de l'ensemble baroque de Toulouse. Ce sera en seconde partie d'émission puisque nous allons revenir dans un premier temps sur l'actualité musicale récente. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour Serge, bonjour Michel, bienvenue aussi à vous deux. Je l'ai indiqué il y a quelques instants, l'Orchestre National du Capitole faisait sa rentrée et lançait sa saison 21-22 vendredi dernier à la Lograin. Tougan Sokhev était présent pour diriger l'ensemble symphonique toulousain dont il reste le directeur musical jusqu'à nouvel ordre, il faut le rappeler. Il y avait également un soliste invité et vous avez pu assister à sa prestation, Serge. Il s'agissait d'un jeune pianiste de nationalité ouzbek, ce qui n'est pas commun, mais c'est pas la première fois qu'on l'entendait à Toulouse. Hein.
Ah non, non, non. Mais là, c'était un peu particulier puisqu'il s'agissait vraiment du retour de l'Orchestre National du Capitole devant son public, enfin. Et là, on sentait une émotion particulière, hein, palpable. Il y a eu déjà des applaudissements très chaleureux dès l'arrivée des musiciens. Ça notait quand même qu'il s'agissait d'un moment particulier. Alors donc, Behzod Abdourahimov est effectivement pianiste ouzbek, mais c'est la troisième fois qu'il vient à Toulouse, puisqu'il était déjà venu en 2014, toujours avec le même orchestre et le même chef. Il avait été le soliste du premier, fameux premier concerto de Tchaïkovski. Et puis en 2019, il était là le soliste du deuxième concerto de Rachmaninov. On voyait des pièces solides, très notées, connotées par la virtuosité. Alors là, cette fois, il était l'interprète du deuxième concerto de Prokofiev. Alors, la musique de Prokofiev, pour piano, il ne faut pas oublier que Prokofiev était un grand pianiste. Il était célèbre, comme on le disait à l'époque, pour ses doigts d'acier. Eh bien, on peut dire que Behzod Abdourahimov est le digne successeur de Prokofiev, puisque lui aussi possède des doigts d'acier, mais il est aussi capable de soudaine douceur, ce qui est une bonne chose. Donc, ça n'est pas systématique, cette frénésie de notes qu'il y a dans ses concertos. Et donc, il a joué ces trois mouvements de ce concerto de manière tout à fait impressionnante, hein, avec notamment un final dont le nom est Allegro Tempestoso, ça dit tout ce que ça veut dire. Et donc là, c'était la frénésie la plus complète. Ce qui m'a complètement impressionné, c'est les cadences. Alors dans ces cadences, Prokofiev se déchaîne complètement. Et le soliste de cette soirée-là faisait pareil. Donc ça a été tout à fait impressionnant. Alors il a joué ce concerto avec une tension incroyable. L'orchestre, magnifique. On avait l'impression que c'était un renouveau des musiciens de l'orchestre. Et à la fin, contrairement à la tradition, eh bien il n'a pas joué de bis. Et je trouve qu'il avait tout à fait raison. Parce qu'après ça, après une œuvre aussi intense, aussi forte, que jouer. Hein,
quel bis aurait-il pu jouer? Qu'est-ce qu'il aurait pu ajouter?
Ah non, 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 il n'a pas joué de bis, mais il a eu un succès énorme, hein, des applaudissements très chaleureux. Et puis en deuxième partie, eh bien, il s'agissait pour Tougan Sokhev de poursuivre l'intégrale qu'il souhaite d'une part exécuter et enregistrer avec l'orchestre des symphonies de Dmitri Chostakovitch. Et cette fois, il s'agissait de la 10e en mi mineur, qui occupe tout à fait une place particulière dans la production du compositeur, puisqu'elle a été composée probablement entre juillet et octobre 1953, peu après la mort d'un certain
Staline.
Staline, qui, je vous le signale, est mort le même jour que Prokofiev. Pauvre Prokofiev, dont on a ignoré la mort pendant très longtemps, parce que seule la mort de Staline occupait les informations. Donc, la disparition du dictateur a vraiment dicté à Chostakovitch une partition complètement folle, également incroyable, avec notamment un début, alors là c'est impressionnant, et ça c'est vraiment un gain de Tougan Sokiev, avec tout le début, ce ne sont que les pupitres de cordes, et là il y a une intensité des cordes que l'orchestre n'a pas toujours eu, mais là vraiment c'était tout à fait impressionnant. Et avec surtout l'apparition au troisième mouvement de cette fameuse signature de l'acronyme musical de Chostakovitch, alors dans son écriture en allemand, DSCH, c'est-à-dire Ré, Mi bémol, Do, Si, et cette répétition frénétique de cette signature. Alors, il y a un chef célèbre, Andris Nelson, qui entend là Chostakovitch dire à Staline, avec sarcasme et ironie, « Tu es mort, mais moi je suis encore vivant, je suis là ». Donc, et vraiment, alors là, oui, je crois que cette interprétation de la chose a été tout à fait bien. Donc,
cela dit, le mouvement Allegro a encore un côté très, très angoissant, très oppressant.
Oui.
On sent que Staline est mort, mais le stalinisme n'est pas mort avec lui, tout
n'est
de même.
N'est pas mort. Mais,
ça se sent dans l'œuvre.
Mais quand même, bon, la direction est la bonne, hein, donc c'était vraiment impressionnant. Et je voudrais souligner vraiment la qualité instrumentale de chaque intervention soliste au sein de l'orchestre, du cor à la clarinette, des flûtes au basson, et tu sais, en particulier les bassons ont un rôle très important, les trompettes et les trombones, et le tuba, le fameux tuba aussi, qui a des réparties particulières, et les percussions, donc, et il faut donner quand même un satisfecit important au super violon. Premier violon, Christy Jessie, qui vraiment...
Comme d'habitude,
fait des choses formidables. Alors la saison s'annonce donc sous les meilleurs auspices.
Oui, certainement. Et puis on voit que Tougan Sokiev est encore bien présent à Toulouse et que les musiciens de l'orchestre en sont très contents.
Très heureux.
Nous allons pouvoir écouter maintenant un très court extrait de la symphonie numéro 10 de Chostakovitch, qui est une des plus jouées avec la numéro 5, hein, interprétée par l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Tougan Sokiev. Petit extrait de la symphonie numéro 10 de Chostakovitch, joué par les musiciens de l'Orchestre National du Capitole sous la baguette de Tougan Sokiev. Le prochain concert de l'ensemble symphonique toulousain est prévu le samedi 2 octobre à 18h, toujours à la Halle aux Grains bien sûr. C'est un happy hour dont le musicien invité est le jeune percussionniste toulousain Aurélien Gignoux, révélation soliste instrumentale de l'année aux récentes victoires de la musique classique. Nous allons maintenant changer de cadre à tout point de vue en revenant sur le concert lecture de musique en dialogue au Carmélite. C'était dimanche à la chapelle des Carmélites de Toulouse. C'était le dernier de la saison et nous avons pu entendre le duo formé par l'excellente violoncelliste Virginie Constant et cette grande comédienne et remarquable lectrice qui est Marie-Christine Barrault. Elles ont présenté un programme qu'elles avaient intitulé « L'Éden pour Horizon, la forêt de Fontainebleau ». Et je dois dire, en ce qui me concerne, que ça a été un enchantement, que ce soit concernant les textes lus par Marie-Christine Barrault, que pour les musiques jouées par Virginie Constant. Et je crois que vous avez beaucoup apprécié aussi ce moment, Serge.
Ah oui, exactement, en effet. Alors, il y avait un double intérêt, à la fois musical et poétique. Hein. Et donc, j'ai trouvé que dans le choix et l'agencement, et même la succession des écrits qu'a lu Marie-Christine Barrault, eh ben, il y avait un ordre qui était intelligemment conçu dans ces textes. Alors c'était des textes d'auteurs variables, il y avait beaucoup de textes de Georges Sand, puis de Théophile Gautier, de Lamartine, et puis de personnalités moins connues, comme Jean Bory, Étienne Pivert de Sénancourt, que j'avoue, je ne connaissais
J'adore
pas.
J'adore ce nom.
Oui.
Qui est un pivert dans la forêt, c'est bien, je trouve.
Oui, c'est ça, oui.
Même s'il est de Sénancourt et pas de Fontainebleau.
Exactement. Il faut dire que c'était donc le thème de cette rencontre. On ne peut pas appeler ça un concert ou un spectacle, enfin c'est tout à la fois. C'était l'Éden pour Horizon, la forêt. Donc c'était à la gloire de la forêt en quelque sorte, et en particulier la forêt de Fontainebleau qui était vraiment mise en avant.
Et c'est pour ça qu'il y avait aussi beaucoup d'auteurs romantiques. Hein.
Exactement.
C'était Georges Sand, Théophile Gautier, Lamartine, des auteurs qui ont été très inspirés par la nature.
Alors moi ce qui m'a surpris, c'est l'évolution des textes qui vont de l'évocation poétique de la forêt, des vies qui animent ce milieu, jusqu'à la dénonciation quasi écologique des dommages infligés par les activités humaines à ce fragile environnement. Incroyable, au XIXe siècle, eh bien on constate que ces sujets qui sont si sensibles aujourd'hui, eh bien ils inquiétaient déjà certaines consciences de ce XIXe siècle. Comme quoi on n'a pas beaucoup avancé depuis. Alors ça, c'était le côté littéraire, en quelque sorte, et c'était donc balisé par des œuvres musicales qui appartiennent à un répertoire extrêmement large, puisque ça commence par Claudin de Sermisy et Giovanni Gabrieli, bon, la Renaissance, et puis ça arrive à Mieczysław Weinberg, qui est un compositeur polonais donc du XXe siècle, et ça passe par des mélodies celtes, par le fameux Chant des oiseaux, thème très cher à Pablo Casals, hein, dont il avait transcrit évidemment l'œuvre pour violoncelle, et puis tout cela est balisé, alors ça va faire plaisir à Michel Brun, par évidemment des pièces de Jean-Sébastien Bach. On ne pouvait pas ne pas faire jouer un violoncelle seul sans lui faire jouer du Bach. Et donc effectivement, il y a de cette magnifique musicienne qui jouait ce soir-là, eh bien, de temps en temps, a joué quelques extraits des suites pour violoncelle seul, donc de Bach. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la conclusion, c'était la sublime sarabande de la cinquième suite, que tu, évidemment, j'enfonce une porte ouverte, une merveille. Et c'était un peu la conclusion, tout en retenue, en intimité, en finesse. En plus, le violoncelle, pendant le concert, réalisait certains bruitages aussi. Imitait quelques oiseaux par-ci par-là, pendant les textes.
On peut faire beaucoup de choses avec un violoncelle. Hein.
Ouais. Et puis ce que Marie-Christine Barrault met en évidence, c'est tout d'abord le velours de sa voix. Bon, elle a une voix tout à fait caractéristique, des inflexions, sans affectation.
C'est une vraie grande comédienne et c'est une lectrice formidable. C'est pas pour rien qu'elle vient presque tous les ans, des années, au Marathon des mots.
Oui, oui.
Et à Passe-ton-Bac d'abord.
Et à Passe-ton-Bac, elle est venue, c'est vrai.
Dans lequel elle avait fait une lecture magnifique des petites chroniques d'Anna Magdalena Bach.
Ah voilà, oui, oui, oui. Non, mais tout à fait indiqué pour ça. Et puis elle est douée pour l'humour aussi. Elle peut insérer des petites remarques très particulières, vraiment. Puis elle a terminé d'ailleurs en lisant un texte en bis de Jean d'Ormesson, un texte très amusant dans lequel on cite à peu près tous les animaux de la création pour qualifier le comportement humain. Alors ça, c'était un peu dans la lignée de cet ensemble de concerts et de spectacles de cette année qui était donc dédié à La Fontaine pour son 400e anniversaire.
Voilà, donc ce fut une belle saison et belle conclusion de cette saison 21 de musique en dialogue aux Carmélites. Je n'ai pas d'extrait d'œuvre joué par Virginie Constant dimanche dernier à vous proposer, mais je voulais tout de même vous faire entendre son beau violoncelle dans cette émission. Elle joue ici Kadish de Maurice Ravel, accompagné par le pianiste François Dumont. Kaddish, œuvre déchirante de Maurice Ravel, interprétée par la violoncelliste Virginie Constant, accompagnée par le pianiste François Dumont. Et concernant musique en dialogue au Carmélite, je peux d'ores et déjà vous annoncer que la prochaine saison aura pour thème les grands mécènes à travers l'histoire de la musique. On a déjà hâte d'y être. Nous allons conclure ce retour arrière avec le récital donné mardi 14 au cloître des Jacobins par le pianiste Alexandre Kantorov. Vous aurez compris que le jeune musicien français s'y est produit dans le cadre du festival Piano Jacobin 2021. Il a joué un programme d'œuvres de Brahms et Liszt. Kantorov, c'est la nouvelle coqueluche du piano français depuis qu'il a remporté le premier prix du concours Tchaïkovski en 2019, premier musicien français à réussir ce tour de force. Alors Serge, a-t-il été à la hauteur de sa fraîche, mais déjà très grande réputation ?
Ah oui, oui, oui. Alors c'est quelqu'un de très simple. Hein. Ça ne lui est pas monté à la tête, hein, ce premier prix, donc ça fait plaisir. Mais c'est quelqu'un qui est bouillonnant, au point que tout de même, à la fin du spectacle, toute la salle s'est levée pour une ovation debout, comme c'est assez rare d'en observer dans ces circonstances-là. Et il a un peu bousculé les traditions, d'ailleurs, puisque associé Liszt et Brahms n'ont pas des images très proches, alors qu'il y a des points communs entre les deux, effectivement. Hein. La musique Magyar, elle est souvent chez Brahms, ah oui, et elle est évidemment, oui, chez Liszt. Mais là, l'impression qu'il m'a donnée, d'abord par le jeu très coloré, très spontané, absolument pas affecté, il m'a donné l'impression que c'était lui-même qui composait les œuvres qu'il jouait. Voilà, il y avait une spontanéité, une vérité qui fonctionnait très bien. Et donc, il a, dans le programme qu'il a joué, les deux œuvres majeures de Brahms qu'il a joué étaient deux œuvres de jeunesse, puisqu'il a commencé par les quatre ballades de l'opus 10, et puis il a terminé par la sonate numéro 3 en fa mineur, qui a été composée par un jeune homme de 20 ans. Donc il faut voir que c'était le jeune Brahms. Et donc il a un peu tiré vers la vivacité d'un Liszt, évidemment. Et il a beaucoup joué sur cette espèce de spontanéité, donc, comme je disais. Et ces deux pièces de Brahms sont des pièces emblématiques du romantisme, c'est évident. Les quatre ballades sont des pures merveilles. Hein. Il les a jouées en les spécialisant, en fait, chacune, puisqu'elles ont des caractéristiques un peu différentes. Ça commence par l'ombre de la première ballade, et puis il y a les tempêtes qui se lèvent, etc. Donc il a fait ça avec beaucoup d'art et beaucoup d'intelligence. Et puis la sonate en fa mineur, donc la troisième, c'est cette fameuse sonate qui a permis à Schumann de la qualifier de symphonie déguisée. Et effectivement, à la fois par la dimension, elle est très longue, et par la manière dont elle est orchestré, en quelque sorte, on passe à une symphonie. Hein. Et c'est précisément comme ça que le pianiste, donc qu'Alexandre Kantorov, l'a joué. Hein. Il l'a joué, on avait l'impression que son clavier, c'était un orchestre, en fait. Il colorait beaucoup. Hein. Et ça a été très, très bien. Il m'est venu à l'esprit l'idée que là, on voyait le jeune Brahms sans la barbe ni le gros ventre que l'on voit sur les photos les plus courantes de Brahms.
Mais le jeune Brahms était très svelte.
Très svelte.
C'était un très beau jeune homme, d'ailleurs, n'est-ce pas, Michel ?
On a eu l'occasion d'en parler sur les émissions Schumann il y a quelque temps. C'était un très, très, très bel homme. Vraiment, un très beau jeune homme avec un visage. Il aurait pu être mannequin. Hein,
oui, oui, absolument, absolument. Voilà pour ce qui est de Brahms. Et entre ces deux pièces de Brahms, donc c'était du Liszt. Et le Liszt, il n'a pas choisi le plus facile, puisqu'il a choisi, après une lecture de Dante, Fantasia quasi una sonata, publiée dans le second volume des Années de pèlerinage. C'est inspiré évidemment par la Divine Comédie de Dante. Alors, il s'est investi à la fois corps et âme dans cette exécution, mais on avait l'impression que sa vie en dépendait, quoi. Il fallait absolument qu'il communique, et là, avec beaucoup de nuances et des phrasés absolument extrêmes, donc les pianissimi les plus éthérés jusqu'à l'explosion de notes comme il sait le faire, là il a obtenu une ovation vraiment triomphale, évidemment, on pouvait s'y attendre. Ce programme était lourd, hein, un programme très consistant, eh bien il a quand même consenti à 3 bis. Alors il a commencé par l'un des sonnets de Pétrarque, aussi de Franz Liszt, des petites pièces. Hein, et puis ensuite, alors là, ça a été la grande surprise. On a entendu la scène finale, en quelque sorte, de l'Oiseau de feu de Stravinsky, mais dans une transcription, mais complètement hallucinante, d'un certain, que je ne connaissais pas, Guido Agosti. C'était mais hallucinant. On avait l'impression que c'était injouable, et pourtant il le jouait. Donc là aussi, ça a été un vrai triomphe. Et puis le troisième bis, c'est un mystère, puisqu'il n'a pas voulu dire ce que c'était. C'était une musique de film, et qu'il a offert à l'une de ses connaissances qui était dans la salle. Donc il n'a pas précisé.
Bon, là, un cinéphile, sans doute.
Et probablement, oui. Donc un magnifique récital qui a enthousiasmé le public, et je signale que aussi bien la salle capitulaire que dans les ailes du cloître, c'était archi-comble. Vraiment, il n'y avait plus...
Eh bien, tant mieux. On s'en réjouit que les gens retournent au concert, qu'ils n'aient pas peur d'y aller, qu'ils remplissent les salles, voire qu'ils les fassent déborder. Alexandre Kantorov, qu'on voit depuis quelques années, mais tous les ans à Toulouse, que ce soit au Jacobin ou avec l'orchestre du Capitole. Oui. Un nouvel habitué, personne ne s'en plaindra, je pense. Pas question de terminer cette première partie d'émission sans écouter Alexandre Kantorov, dont voici une interprétation du premier mouvement Allegro Maestoso de la sonate numéro 3 de Johannes Brahms. Le premier mouvement Allegro Maestoso de la sonate numéro 3 de Johannes Brahms, interprété par Alexandre Kantorov, pour conclure cette première partie d'émission. Je rappelle que la 42e édition de Piano Jacobin se poursuit jusqu'au 26 septembre et il y a encore beaucoup d'excellents pianistes à y entendre. N'hésitez donc pas à consulter la programmation sur le site du festival. Courte pause avant de nous retrouver dans quelques secondes en compagnie de Serge Chosy et Michel Brun, avec qui nous allons vous présenter la 13e édition de Passe ton bac d'abord. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec Michel Brun, notre invité d'honneur, fondateur et directeur artistique de l'ensemble baroque de Toulouse, et donc fondateur et directeur artistique de Passe ton bac d'abord. La 13e édition se tient à Toulouse du 24 au 26 septembre, dans divers lieux comme d'habitude, et avec des dizaines de propositions en tout genre, comme le veut l'esprit du festival. En revanche, la tradition qui n'a pas été respectée, c'est celle d'organiser Passe ton bac d'abord le premier week-end de juin, au moment où les élèves de terminale préparent leur bac. On sait que c'était très compliqué de maintenir le festival début juin en raison de la crise sanitaire. Il était aussi inenvisageable de vous résoudre à une nouvelle année blanche après celle de 2020. Alors pourquoi avoir choisi fin septembre, période où l'offre musicale est très importante à Toulouse? Là, il y a de la concurrence.
Voilà, effectivement, mais là, dans ce genre de cas, on choisit pas beaucoup. C'est surtout, je vais être tout à fait honnête, on pourrait dire oui, on a ciblé ce week-end-là parce que c'était... Non, pas du tout. On a réfléchi, il y a plusieurs choses qui étaient importantes pour nous. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui se passent à Toulouse, dont évidemment un grand festival qui va démarrer peu de temps après, qui est Toulouse Les Orgues, et donc inenvisageable pour nous, évidemment, de programmer en même temps. Et donc, ensuite, plus tard, après Toulouse Les Orgues, ça commence à devenir problématique, puisqu'il y a pas mal de concerts qui, traditionnellement, ont lieu en extérieur dans Passe ton bac. Et donc, en extérieur passé, on va dire, on n'est jamais sûr de rien. Il y a eu des mois de novembre qui étaient absolument printaniers, et puis parfois des mois d'octobre. Et donc, voilà, on ne pouvait pas trop s'éloigner de la période. Voilà, donc ça. Et puis, il faut bien dire aussi que nous avons besoin, on en reparlera, pour une œuvre emblématique de Jean-Sébastien Bach, de la Halle au Grain. Et la Halle au Grain est une salle très convoité à Toulouse. Et donc voilà, on a en un mot pris ce qui restait. Hein.
Oui, et puis passe ton bac d'abord, c'est aussi une sorte d'itinérance dans Toulouse, dans les rues
oui, tout
de Toulouse.
À fait.
Pour aller d'un point à l'autre, il faut qu'il fasse beau pour que oui, les gens puissent
voilà.
aller à pied.
C'est ça, si c'est sous la pluie battante, c'est arrivé une fois ou deux au printemps, puisque les printemps toulousains ne sont pas toujours
parfois,
là.
Bien, oui.
Mais autant en tout cas qu'il ne fasse pas trop froid en même temps. Voilà.
Alors, chaque édition a une thématique ou un sous-titre, si l'on préfère. Je me rappelle qu'il y a quelques années, le sous-titre était « Le voyage immobile ». En référence au fait que si la musique de Bach a fait le tour de l'Europe puis du monde, Bach lui-même n'a jamais quitté l'Allemagne de toute sa vie. Cette année, vous avez choisi comme thème « Bach, monde ». Bon, c'est un peu un cliché de le dire, hein, mais je suppose qu'il s'agit de souligner que la musique de Bach est universelle, qu'elle est jouée partout dans le monde, mais peut-être plus encore, qu'elle touche et peut inspirer tous les musiciens, quelle que soit leur culture musicale d'origine.
Voilà, ben c'est bon, l'émission est terminée, j'ai plus rien à dire, je crois que vous avez parfaitement résumé.
Ils sont taquins, nos invités, ils nous font croire qu'ils sont incapables de parler dans le micro, alors quand ça vient de Michel Brun, là on rigole. Hein.
Voilà, le Bach voyageur, le voyage immobile, effectivement c'était parce que Bach, sans quitter sa province de Turin, et de Saxe, enfin en gros, hein, il l'a un tout petit peu quitté, mais il a en tout cas jamais effectivement quitté l'Allemagne. Par contre, Bach a su s'inspirer des autres musiques, et il avait cette avidité absolument incroyable d'inviter constamment les musiciens de passage là où il était, de s'inspirer. Quand il était par exemple, il était en charge à Köthen, il y avait un orchestre qui était parfois composé de musiciens français, et donc il s'est beaucoup à cette occasion inspiré de la musique française, et en particulier c'est ce qui lui a permis d'écrire des œuvres quasiment de musique française, comme ses suites d'orchestre par exemple. Voilà. Ça c'était pour ce voyage immobile donc. Et là, effectivement, c'est plus l'aspect universel que revêt la musique de Bach, c'est-à-dire le fait que... Mais c'est pas seulement pour les musiciens. Je suis en ce moment un peu lassé de lire des livres trop complexes, de lire un roman policier. Et en arrivant à la page 150 de ce roman policier, je tourne la page et je vois une phrase qui est « Mais de toute façon, le seul moyen de réussir à s'échapper de ce monde glauque et insupportable, c'est d'écouter du Bach. » Et c'est une chose récurrente. Je le trouve, ce monsieur Bach, partout. J'ai l'impression qu'il est partout. Donc cette universalité, c'est quand même pas un cliché, c'est une réalité. Et alors évidemment, elle s'incarne tout particulièrement auprès des musiciens parce que dans toute cette histoire incroyable des 13 éditions de Passe ton Bac, donc avec une centaine de concerts à chaque fois. Bon, cette année, on a fait un festival très léger. Je crois qu'il doit y avoir que 70 concerts. Hein. Voilà.
C'est un peu petit bras
pour cause de crise sanitaire. Je vous en dirai peut-être un petit peu plus. Et d'autres raisons. Il y a un seul musicien en tout qui, lorsque je lui ai proposé d'adapter Bach donc à son style, c'était un jazzman, hein, c'est le seul qui m'ait dit non.
Je ne sais pas faire,
voilà, exactement. Et tous les autres, quelle que soit leur pratique musicale, quelle que soit leur origine géographique, culturelle, etc., ont accepté ce défi de mélanger leur style, on va dire, avec la musique de Bach. Et donc, oui, il est bien universel. Et ça, c'est un mystère qui reste pour moi entier, d'autant plus, et j'en terminerai avec ça, que cet homme a eu cette, on pourrait dire, petite vie modeste d'artisan, que cette espèce d'universalité, j'imagine que si...
Il ne l'avait sans doute jamais imaginé
de
son vivant.
Il ne l'avait jamais imaginé. Bon, c'est quelque chose que je dis souvent, mais pensez qu'il a probablement composé 4 ou 5 passions et qu'on n'en a retrouvé que 2 parce que les 2 ou 3 autres ont été perdus parce que tout simplement cette musique n'a pas été estimée comme suffisamment intéressante pour qu'on la garde à sa mort. Voilà, ce contraste est absolument inouï entre cette modestie de son temps et cette universalité qu'il a conquise après sa mort, bien après sa mort.
Le Mister Bach, ça pourrait être aussi une
oui,
thématique
tiens,
d'une
très bien, je retiens, je mets ça dans
venir.
Un petit coin de mémoire.
Alors, on va parler des musiciens que vous avez invités pour illustrer votre thématique 2021, mais avant, pour donner une idée à nos auditeurs de l'aspect exotique de la programmation de Passe ton Bach d'abord 2021, on va vous donner un petit aperçu avec une musicienne chinoise qui s'appelle Nan Yang, qui vit à Toulouse. Elle joue de la sitar chinoise, ça s'appelle le Gucheng. Écoutez, c'est à la fois très beau et très dépaysant. Thank you. Voilà tous les mystères de l'Asie dans ce morceau joué au Guzheng par Nan Yang, cette musicienne chinoise qui vit donc à Toulouse et que vous pourrez entendre lors d'un concert qui s'appelle tout simplement Bac Guzheng à l'auditorium Bernard Maris, c'est place Saint-Étienne, samedi 25 septembre à 18h et dimanche 26 à 16h à la chapelle des Carmélites. Alors dites-nous un mot sur cette musicienne que vous avez invitée à votre festival, Michel.
Voilà.
Parce qu'on la connaît un peu à Toulouse, mais bon, pas tant que ça non plus.
Pas tant que ça non plus, et c'est très dommage parce que c'est une artiste exceptionnelle, une artiste et une personne exceptionnelle. Alors elle représente très bien finalement un syndrome que je connais bien du directeur artistique de ce festival. Quand je m'adresse à des personnes dont la culture, dont la pratique musicale est très éloignée de la musique de Bach, c'est dans un premier temps quand je l'ai contacté, puisque moi je l'avais entendu plusieurs fois en concert, mais jouant sa musique, celle qu'on vient d'entendre, hein, puisque là il y a évidemment dans ce qu'on vient d'entendre pas du tout d'intervention de la personnalité et de la présence de Bach. Et voilà, et donc je suis allé la voir et je lui ai demandé si elle voulait bien participer à ce festival et relever ce défi. Et elle a commencé par me regarder avec des grands yeux en me disant mais je ne connais rien à la musique occidentale et je n'ai jamais joué de Bach et mon instrument est vraiment un instrument traditionnel chinois, comme on l'a entendu, donc je ne vois pas ce que je peux faire. Enfin bon, d'accord, je veux bien réfléchir. Et quelques jours après, elle me rappelait pour me dire c'est ok, je vais le faire. Voilà. Et donc, j'ai entendu déjà donc son travail, le début enfin de son travail sur Bach mêlé à sa musique traditionnelle, et je peux vous dire que c'est absolument extraordinaire, mais le pari auquel j'ai cru, disons, en lui faisant confiance, et alors là, me paraît maintenant totalement assumable.
Alors, on va rester en Extrême-Orient, si l'on peut dire. On va passer de l'Empire du Milieu à l'Empire du Soleil Levant parce qu'il y a un concert Japanistan qui va être donné par un certain Kengo Saito avec d'autres musiciens. Ça va être le 25 septembre à 16h à la Grande Chambre de la Cour d'Appel et le 26 septembre à 14h à Saint-Pierre-des-Chartreux à l'église. Qui est ce Kengo Saito? Comment est-il arrivé jusqu'à vous et jusqu'à Toulouse?
Voilà, alors... C'est comme souvent quand même, il faut bien le reconnaître dans Passe ton bac d'abord, par connaissance personnelle. Il se trouve que ce musicien japonais, donc, a un groupe dans lequel joue un certain Ershad Terani, qui lui est d'origine iranienne et qui joue dans ce groupe des percussions orientales, dont en particulier du daf, qui est une percussion traditionnelle iranienne. Et ce percussionniste iranien a aussi la particularité d'être le contrebassiste de l'ensemble baroque de Toulouse. Et donc, il a les deux casquettes. Il joue magnifiquement de la contrebasse classique, enfin baroque, et également magnifiquement donc des percussions orientales. C'est un garçon très réservé, très timide, qui ne se met jamais en avant, mais un jour, il m'a dit « Écoute, Michel, il était venu jouer donc dans l'orchestre pour la Passion selon saint Matthieu et pour la Messe en Si. » Et donc, il me dit « Ben écoute, voilà, maintenant, je commence à mieux connaître ton festival. Je voulais te dire, hein, mais je veux pas te déranger, hein, surtout, mais je voulais te dire, je joue dans un groupe qui s'appelle Japanistan et qui mélange des musiques orientales, etc. Donc, si ça t'intéresse, comme j'essaie double culture, je me sens capable de faire une création autour de Bach en version extrême orientale.
Japanistan, parce qu'il y a là-dedans le Japon et l'Afghanistan, pas l'Iran, l'Afghanistan, voilà, parce qu'il y a un instrument un peu particulier.
Voilà, un instrument typiquement afghan. Alors l'Afghanistan, dont on parle à l'heure actuelle,
malheureusement
moins pour sa
d'autres
musique
raisons,
que pour d'autres raisons. Mais justement, je crois que ça peut être aussi une occasion d'une forme de solidarité. Hein. Et donc, ces trois musiciens, ils ne se sont pas appelés Japanistan-ran, voilà, mais effectivement, le troisième larron, donc, est bien iranien, donc un japonais, un afghan et un iranien qui tous les trois vivent en France et qui viennent donc nous faire partager leur musique, mais évidemment mêlée à celle de Bach.
Alors il y a aussi du Bach jazz. Alors ça, c'est avec un musicien qu'on connaît, nous, parce que c'est Étienne Manchon. Alors
lui, c'est un jeune pianiste, prodige, on peut dire. Alors, on parle souvent des pianistes prodiges dans la musique classique. Je suppose que Alexandre Kantorov, dont on parlait tout à l'heure, n'a pas commencé le piano à 19 ans et demi, hein, pour jouer comme ça à 20 ans. Voilà. Et donc, il a dû commencer très tôt et très rapidement montrer des dispositions évidemment remarquables pour cet instrument. Eh bien, Étienne Manchon en jazz. Alors simplement, comme souvent les jazzman, il a connu d'abord un parcours classique, hein, et d'ailleurs ça a été le pianiste accompagnateur du chœur de l'ensemble. Moi j'ai des souvenirs de répétitions avec lui. Alors c'est un garçon qui peut réduire à vue la partition de la Messe en Si, par exemple, la partition d'orchestre, qui comporte 15 lignes, et c'est absolument inouï. Hein. Et il s'est maintenant plus orienté vers le jazz, et donc il nous proposera, lui, de partir. Alors on était là plutôt vers l'Est, hein, pour chez nous. Lui, on va partir plutôt vers l'Ouest, puisqu'il nous proposera un jazz d'origine sud-américaine, et en particulier du jazz cubain, et de mêler Jean-Sébastien Bach avec du jazz cubain. Ben, je pense que Bach devrait secouer un petit peu là.
Voilà, Étienne Manchon, trio, le 25
Étienne
septembre.
Étienne a d'ailleurs eu les honneurs d'une diffusion en direct d'un de ses concerts de Jazz in Marciac cet été.
Voilà, un grand musicien, donc à écouter avec son trio le 25 septembre à 15h à Saint-Pierre-des-Cuisines et à 19h au Jardin Montplaisir. Ah, un habitué du festival, Camille Artichaud.
Ouais.
Alors lui, il va nous faire du Bar Mitzvah.
Voilà.
Oh, le jeu de mots.
Alors voilà, alors je m'excuse, hein, mais le jeu de mots n'est pas de moi. Oui. En général, c'est moi qui essaie de trouver le titre.
Je voulais savoir qui était le coupable.
Non, c'est lui. C'est lui. lui. Voilà, il nous a proposé, donc vous savez sans doute que normalement, originellement, on ne dit pas Bach. Ça, c'est propre aux Français qui appelons Pergolèse, un certain Pergolesi, par exemple. Voilà.
Et qui Francis, c'est le prénom de Bach, d'ailleurs.
Voilà, et qui Francis, Jean-Sébastien Bach, normalement, Johann Sébastien Bach. Mais si en français, on
le
dit
plus rigolo,
ça,
c'est ceux qui disent Jean-Sébastien Bach.
Oui, alors là, voilà, ça c'est drôle, aussi, ça, effectivement. Mais je ne me vois pas dire Johann Sébastien Bach, ça fait légèrement snob. Voilà, donc comme tout le monde, disons Jean-Sébastien Bach. Voilà. Mais on devrait dire normalement en allemand Bach. Et lui, donc, a fait un jeu de mots sur Bach et la Bar Mitzvah, qui est cette fête donc traditionnelle juive. Et donc, Camille Artichaut, qui est effectivement un habitué, qui est venu mais nous enchanter absolument. Pour moi, le souvenir le plus merveilleux, c'était lorsqu'on avait donné à la salle capitulaire, justement, des Jacobins, la messe brève en sol mineur de Bach, qu'auparavant, lui avait joué avec son trio accordéon, voix et clarinette, et que, à la fin, les trois musiciens sont venus faire un bœuf sur les dernières mesures de cette messe brève de Bach. Et là, c'était effectivement absolument inouï. Et là aussi, un chemin vers cette universalité de Bach qui permet d'accueillir toutes sortes de musiciens.
Camille Artichaut, c'est pas son vrai nom, je le précise. Non, Camille Artichaut, excellent clarinettiste. Il va donc se produire avec ses musiciens à l'église du Jésus à midi et à 16h le samedi 25 septembre. Autre proposition Bach quelque chose, là c'est Bach Safran par le groupe Zafrani. Alors le groupe Zafrani, la chanteuse, vous la connaissez, et pas qu'un peu.
Oui, absolument. Alors de la même manière que je parlais donc de ce contrebassiste qui joue des percussions iraniennes, Ershad Terrani, eh bien on peut aussi être une chanteuse lyrique, c'est le cas de Caroline Champy, puisque Caroline Champy, vous aurez l'occasion de l'entendre deux fois dans le festival, une fois lors de la clôture, mais je garde encore un petit peu de suspense, on va en parler dans un moment, et une autre fois donc dans un groupe qu'elle a constitué. Alors voilà, Caroline, moi je la connais depuis très longtemps. Vous savez, à l'ensemble baroque, on essaie de fonctionner un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de troupe, d'esprit de troupe, c'est-à-dire qu'évidemment, nous les musiciens, on forme un orchestre constitué, on va dire bien que ce soit des intermittents, c'est-à-dire c'est pas du tout le même statut que l'orchestre du Capitole, par exemple, qui sont des permanents et des salariés, mais nous, ce sont des intermittents. Le cœur de l'ensemble qui nous rejoint, ce sont aussi des personnes régulièrement les mêmes, voilà. Ça pour garantir un travail de fond, un travail qui avance, hein, qu'on peut approfondir au fil du temps. Mais on essaye aussi de faire pareil avec les solistes vocaux, et les solistes instrumentaux, d'ailleurs, quand on joue des concertos. Et donc, Caroline est notre mezzo-soprano depuis maintenant en plus de 10 ans, et c'est avec elle qu'on avait donné la Saint-Mathieu il y a quelques années à la Halograin, et qu'elle avait, je crois, mule public avec son Herbarmedi. Et donc, je la connais très bien, je sais qu'elle fait plein de choses en dehors de la musique classique, du chant corse, de la chanson française, etc., etc. Et donc, je lui ai proposé de faire de la fausse musique orientale, puisqu'aucune des trois personnes qui composent ce groupe n'est d'origine orientale.
Non, parce qu'il y a aussi Isabelle Sirla, que je connais, qui joue de la clarinette basse.
Voilà, absolument.
Et puis, il y a un percussionniste.
Voilà, Jodel Grasset, qui joue des percussions et de l'oud, d'ailleurs.
Oui, voilà.
Mais par contre, Jodel Grasset, il joue de l'oud, mais il n'est pas originaire du Maghreb, effectivement. Il habite dans le Gers, tout près de chez
nous. En tout cas, Bach Safran, ce sera le 25 septembre à 19h à la Chapelle des Carmélites, et le 26 à 11h à Saint-Pierre-des-Chartreux. Il y aura Bach to Africa. Alors ça, il s'agit d'autre chose, parce que ça se passe à la librairie Ombre Blanche. À 19h le 25 septembre, à 11h le 26, et ça concerne Albert Schweitzer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que fait Albert Schweitzer à Pasturbach?
Voilà, alors pourquoi Albert Schweitzer, ce médecin, théologien, philosophe et organiste, qui un jour, jeune homme, a décidé de, il l'a dit lui-même dans un écrit, de rendre à la vie ce qu'elle lui avait donné, c'est-à-dire ce cadeau d'avoir été, d'être né dans un environnement privilégié. Et il a dit qu'il dédierait la fin de sa vie, voilà, à aller aider les populations africaines qui manquaient de soins. Et donc, pour réussir à faire ça de manière utile, il a fait une formation de médecin, ce qu'il n'était pas, il a entrepris ça à 40 ans, quelque chose comme ça, enfin, c'est absolument inouï. Et il est parti au Gabon, et à Lambaréné, il a fondé un dispensaire qu'il finançait par des tournées d'orgue dans l'Europe entière, voilà. Et c'est un homme absolument extraordinaire quand même, prix Nobel de la paix, et je voulais lui rendre hommage. Et donc il y aura deux conférences autour de cet homme et autour de ce qu'est devenu ce dispensaire qui existe toujours à Lambaréné au Gabon. Voilà, et donc c'est une personnalité unique en son genre et un fou amoureux de Bach lui aussi.
Back to Africa, conférence sur Albert Schweitzer à Ombre Blanche, et on va parler maintenant des temps forts du festival, parce qu'il va y en avoir plusieurs bien sûr. En préambule, vous donnez un concert d'ouverture gratuit, je le précise, avec l'ensemble baroque de Toulouse au kiosque du Grand Rond samedi 25 septembre à 14h, donc les gens qui se promèneront à ce moment-là pourront tout simplement s'arrêter et vous écouter. Vous allez lancer le festival comme ça?
Voilà, c'est ça, nous écouter et participer, puisque nous allons faire chanter au public le dernier choral qui conclut l'œuvre, qui conclut le festival. Voilà, donc voilà. Tout le monde sera amené à pouvoir fredonner du Bach.
Et puis à 18h, le même jour, le samedi 25 septembre, à Saint-Pierre-des-Cuisines, toujours avec l'ensemble baroque de Toulouse, vous propose un programme à la folie, folie d'Espagne et d'ailleurs. Alors, Bach et l'Espagne, de prime abord, on ne voit pas trop le lien, et pourtant il existe.
Il existe absolument. Alors, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, il y a une sorte de folie qui s'est emparée de l'Europe entière à propos d'une danse de la péninsule ibérique qui s'appelle la folia. Voilà.
C'est plutôt portugais, d'ailleurs.
Alors, voilà, on l'a dit espagnol, mais en réalité, elle est portugaise, absolument. Mais enfin, bon, je crois qu'on n'était pas assez près à la cour du roi Louis XIV. Voilà. Et donc, la plupart des compositeurs du temps ont composé des folias sur ce thème qui est un tout petit thème très simple, de quatre mesures. Tan, tan, ti, tan. Tanti, tantin, tadadintim, voilà. Et tous ont composé des variations sur ce thème. Alors, nous allons réunir quelques-uns d'entre eux, mais ils sont essentiellement italiens, même s'ils ont vécu ailleurs. Il y aura du Vivaldi, il y aura du Corelli, il y aura du Geminiani, il y aura du Lully.
Eh oui, Lully, on se l'approprie en France, mais il est italien d'origine. À la base.
Mais il y aura aussi du Bach, puisque Bach, lui aussi, donc, alors c'est ce côté voyage immobile, hein, de son coin tranquille de Thuringe, il a entendu parler de la folia, et il a composé une folia que nous allons jouer à cette occasion.
Eh bien, puisqu'il y a du Vivaldi au programme de ce concert, nous allons écouter un extrait du tout récent CD Vivaldi entre ombre et lumière, que vous venez de faire paraître avec l'ensemble baroque de Toulouse. Pas de folie là-dedans, il s'agit du premier mouvement allegro du concerto pour flûte Il Cardellino. Le premier mouvement allegro du concerto pour flûte Il Cardellino, extrait du CD Vivaldi entre ombre et lumière, enregistré par l'ensemble baroque de Toulouse et récemment paru. Je signale en passant qu'on peut se le procurer en ligne sur le site internet de l'ensemble baroque de Toulouse et Serge Chaudy sera d'accord pour dire qu'il est magnifique.
Ah ben c'est une merveille ce disque, donc il faut absolument l'écouter, l'acquérir si possible. Il révèle un Vivaldi peu connu et peu diffusé, en particulier le Stabat Mater qui est une pure merveille d'émotion. Vraiment, il faut l'écouter. Hein. Et puis, cette musique du sépulcre, deux fois deux minutes à peine, et qui est quelque chose de tout à fait incroyable.
Tout à fait.
En émotion, quoi, en force, en intensité. Donc, il faut absolument...
Je suis vraiment touché par effectivement la vie que vous émettez sur ce disque, parce que c'est un jalon important pour nous à l'ensemble baroque.
Bah oui, hein.
C'est notre premier disque studio, on va dire, voilà, après 20 ans d'existence, un petit peu plus. Et voilà, et on a voulu révéler un peu un Vivaldi inconnu, effectivement, en particulier avec des airs d'opéra également, qui montre alors son incroyable palette musicale.
Oui,
quoi.
Voilà, oui,
absolument pas aussi simpliste qu'on a pu le penser et le dire à certains moments.
Alors, je continue sur le festival, je vais aller un petit peu vite. Là, les samedis 25 et dimanche 26, il va y avoir de nombreux artistes invités. Pour certains, ce sont des fidèles du festival. Par exemple, Jean Tuberi et son ensemble à Fénice. Ils vont se produire à 16h à la Chapelle des Carmélites, le lendemain midi au même endroit, en accompagnant la soprano Audrey Marchal, qui est une Toulousaine.
Absolument.
Que vous avez invitée cette année. Le programme est intitulé Zum Wohl. Ce sont des cantates profanes de Bach qui rappellent Combien c'était un bon vivant aussi, Jean-Sébastien Bach.
Absolument, dont une cantate qui parle de soupe aux choux, qui ne réussit pas à retenir les invités. Voilà, non,
il y a la cantate des paysans, la cantate du café,
absolument. Alors c'est un corpus moins important que celui des cantates religieuses, mais quand même important, puis alors vraiment qui révèle un Bach effectivement absolument déboutonné. Quoi.
Autre artiste invité que vous connaissez bien, Michel, la gambiste Christelle Plubeau, un des grands noms de la viole de gambe en France. Elle va jouer un programme suite fantasque, des pièces de Bach, des pièces de Telemann, samedi 25 à 17h à la Chapelle des Carmélites et dimanche 26 à 15h à Saint-Pierre-des-Chartreux. Elle joue avec vous à l'Ensemble Baroque.
Elle joue avec nous à l'Ensemble Baroque. Elle jouera dans le concert de clôture du festival qui est, encore une fois, suspense.
Le suspense continue. Alors après, on aura la flûtiste Alice Chimansky qui enseigne son instrument au conservatoire Réunion Régional de Toulouse. Et je crois d'ailleurs qu'elle a pris votre succession.
Absolument. Il y a quelques années, je crois que c'est maintenant 3 ans, j'ai décidé donc d'arrêter l'enseignement parce que c'est une activité que j'ai eue pendant longtemps, qui m'a captivé, mais qui est très prenante. Et donc, voilà, le conservatoire a recruté cette jeune femme qui est absolument extraordinaire parce qu'elle représente tout à fait la jeune génération de musiciens. Vous savez que au moment où on commençait à être joués les instruments anciens, il y a une lutte, on va dire, oui, de l'establishment musical. Et maintenant, il y a plein de jeunes musiciens qui, comme elle, pratiquent les deux instruments. Et je peux vous dire que ces deux instruments, la flûte moderne et la flûte baroque, sont des instruments extrêmement éloignés à tout niveau, technique, de la technique de souffle également, etc., etc. Et elle pratique les deux. Et elle mettra les deux en valeur au cours de ce concert avec du Bach, du Carl-Philippe Emmanuel Bach, son fils, mais aussi d'un compositeur italien, sicilien, contemporain, qui s'appelle Salvatore Chiarino, qui écrit une musique absolument extraordinaire.
Voilà, Bach Chiarino, d'ailleurs c'est le titre de son concert, samedi 25 à 15h à Saint-Pierre-des-Chartreux, dimanche 26 à 15h aussi à la Chapelle des Carmélites. On notera qu'elle va jouer une transcription de la deuxième suite pour violoncelle de Bach à la flûte, et c'est elle qui a fait la transcription.
Oui, absolument, tout à fait. Voilà, donc des jeunes musiciens, on a l'impression qu'ils ont un univers musical extrêmement large et pas du tout ce côté juste instrumentiste.
Et puis vous recevez une nouvelle fois l'une des stars du violoncelle en France, en particulier du violoncelle baroque, Ophélie Gaillard, qui semble beaucoup aimer votre festival. Elle est en récital samedi 25 à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines, où elle joue les premières, deuxième et troisième suites pour violoncelle seule. Là, c'est une amie du festival, Ophélie Gaillard.
Oui, on partage.
Et c'est un honneur de la recevoir,
absolument,
je pense.
Absolument, c'est un honneur pour nous. On partage, je crois, avec Ophélie, la même préoccupation de rendre la musique de Bach la plus populaire possible. Et alors là, vraiment, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour ça. C'est un talent inouï, mais en même temps, elle sait vraiment mettre ce talent, j'ai envie de dire, à la disposition de tous.
Je vais tout de suite rassurer nos auditeurs, on va tout de même prendre le temps d'écouter Ophélie Gaillard jouer une des suites pour violoncelle de Bach, et je ne vais pas vous priver du plaisir de l'entendre dans le fameux prélude de la suite numéro 1, BWV 1007. Le célèbre prélude de la suite numéro 1 BWV 1007 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Ophélie Gaillard. Ophélie Gaillard qui va donc jouer les trois premières suites pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach, samedi 25 septembre à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et puis c'est désormais la tradition à Passe-t-on Bach d'abord, c'est l'Ensemble Baroque de Toulouse qui donne sous votre direction le concert de clôture à la Lohengrin, en interprétant l'un des chefs-d'œuvre de Jean-Sébastien Bach. On vous fait languir, chers auditeurs, depuis le début de cette émission. Vous allez enfin savoir de quoi il retourne. Bon, il y en a qui doivent déjà savoir. Donc cette année, dimanche 26 septembre à 18h, vous avez choisi la Passion selon Saint Jean. On se rappelle la formidable Passion selon Saint Matthieu en clôture de l'édition 2017. Et là, vous vous attaquez de nouveau à une sorte d'Everest de la musique savante européenne. Ce doit être En tout cas, je l'imagine, à la fois très stressant, voire angoissant, mais aussi terriblement excitant.
Voilà, vous avez parfaitement résumé. C'est l'état d'ailleurs dans lequel je me sens à quelques jours de cet événement. C'est très stressant parce que c'est une œuvre très intimidante et en même temps très excitant parce que, ben voilà, que dire de cette musique géniale, incroyablement dramatique, c'est-à-dire le chœur dans cette passion intervient de manière incroyablement dramatique, immédiate pour des toutes petites interventions qui tout de suite situent l'action, disons la commente, la situe, l'amplifie. Voilà, je vous avoue que à l'heure actuelle, il est plus temps de regarder derrière et donc c'est plutôt l'excitation qui prévaut. Voilà. Mais oui, moment quand même important pour nous. En plus, c'est la première fois que nous jouons cette œuvre et donc nous réservons cette première fois pour nos auditeurs de Passe ton bac d'abord.
Rapidement, les solistes, on va les citer tout de même. Donc il y aura évidemment Caroline Champy.
Voilà.
Il y aura Clémence Garcia, absolument, qu'on connaît bien à Toulouse, qui est passée par le Conservatoire de Toulouse. Et puis l'évangéliste, très important, qui va être l'évangéliste.
Voilà. Alors l'évangéliste, ben, je le dis pour tous ceux qui étaient déjà à la Lograin il y a donc 4 ans pour la Passion selon saint Matthieu, eh bien c'est le même évangéliste. Et je vous avoue que là, c'est la seule chose positive que je vois à la crise sanitaire que nous venons de traverser, puisqu'il s'appelle Raphaël Heun, et Raphaël n'était pas libre lorsque nous avions prévu en juin 2020, de donner cette passion. Et je me désolais tant ce qu'il avait fait avec nous lors de la Passion selon saint Matthieu avait marqué les spectateurs. Et miracle, il est libre pour cette troisième report. Et donc, c'est bien Raphaël qui viendra être l'évangéliste dans cette Passion selon saint Jean.
L'esprit de Bach veille sur vous, j'en suis certain.
Alléluia.
Alléluia.
Alors, voilà. Je précise que le matin 11h, à Lograin, il y aura une sorte de conférence, les fruits de la passion, pour donner des clés de compréhension de la Saint-Jean publique.
Voilà, c'est pas une conférence, parce qu'il y aura l'orchestre. Donc c'est une présentation en musique, voilà, pour donner des clés d'écoute de cette œuvre complexe mais tellement émouvante, enfin tellement immédiate en même temps.
Évidemment, je n'ai pas à ce jour d'extrait de la Passion selon saint Jean interprété par l'ensemble baroque de Toulouse à vous faire écouter, mais il est hors de question de ne pas la faire entendre avant de terminer cette émission. En voici une version, celle de la Netherlands Bach Society, le chœur très célèbre là aussi, Herr unser Herrscher. C'est un peu un déchirement de couper, mais je suis un peu obligé parce que le temps passe. Le chœur Herr unser Herrscher de la Passion selon saint Jean de Jean-Sébastien Bach, interprété par la Netherlands Bach Society. Mais bon, le dimanche 26 septembre à 18h à la Lograin, c'est l'ensemble baroque de Toulouse qui va donner la Passion selon saint Jean en clôture du festival Passe ton bac d'abord 2021. Il ne faut pas rater ça parce que des Passions selon saint Jean, on n'en entend pas souvent à Toulouse ni même ailleurs en général. C'est la fin de ce numéro auquel je remercie chaleureusement Serge Chosy, Mazzi et Michel Brun d'avoir participé avec leur enthousiasme communicatif habituel. Je rappelle que la 13e édition de Passe ton bac d'abord a lieu à Toulouse du 24 au 26 septembre. Dans tous les lieux que nous avons évoqués lors de cette émission, vous pouvez vous renseigner, réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.baroquetoulouse.com où vous trouverez également le détail de la programmation. Quant à Piano Jacobin, le festival se poursuit jusqu'au 26 septembre avec encore beaucoup de beaux concerts et de grands pianistes à découvrir. Je vous conseille donc de consulter le site du festival pour en savoir plus et réserver en ligne www.pianojacobin.com. Et je signale enfin le concert de l'ensemble Jupiter avec la mezzo-soprano Léa Descendré mardi 21 septembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Ils vont donner un programme d'œuvres de Vivaldi, Couperin et Porpora dans le cadre de la saison des Arts Renaissants. Réservation et achat des places en ligne sur le site www.art-renaissant.fr. Merci à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable, comme d'habitude, dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre écoute fidèle et très bonne semaine musicale à tous.